c'est 9h midi, les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Nous voilà, bonjour à tous, nous voilà en direct à la radio, c'est RMC, en direct à la télé, c'est RMC Story, c'est sur le canal 23 de la TNT, nous voilà, et c'est parti en direct jusqu'à midi. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les Grandes Gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, l'éditeur de bande dessinée, Mourad Boudjelal, bonjour.
Bonjour.
C'était son anniversaire hier.
Ah ouais. Happy
bon
birthday.
Anniversaire Mourad. Ah,
ça fait bizarre, ça fait bizarre de passer les 30 ans.
80 ans, mais non, ça ne les fait pas.
Merci.
Tu t'es couché tard?
Non, moi c'est pas mon genre.
T'es content de venir dans le sud? Parce que t'as remarqué que le nord est devenu le sud.
En ce moment, ouais.
Chez nous, il pleut plus.
C'est un peu la météo en Berlin en ce moment.
Et à Toulon, c'est les orages tous les jours, c'est ça?
Ouais, il pleut, ouais. On en avait un peu besoin quand même.
Tu sais qu'à Paris, c'est le 22e jour sans pluie. C'est un record pour un.
Ouais, mais on fera les comptes à la fin de l'année. On fera les comptes à la fin de l'année, tu verras.
Ouais, c'est problématique d'ailleurs ici pour la végétation aux alentours de Paris, la région parisienne.
Ce matin, excusez-moi, j'étais en voiture. Ils étaient en train de mettre l'arrosage automatique dans un petit square. Ça arrosait plutôt le bitume que l'herbe déjà. Alors déjà, on se demandait si c'était utile d'arroser l'herbe, mais là, ça arrosait tout le bitume. Alors Madame Hidalgo, faut régler les petits trucs. Hein.
Barbara Lefebvre est avec nous, bonjour Barbara.
Bonjour à tous, je voudrais faire, c'est rare que je le fasse, mais là je voudrais lancer un grand bonjour amical à Daniel et Zakia de la boutique Saint-Gère à Versailles, qui sont adorables et des grands fans des GG. Et à une fan des GG aussi qui s'appelle Maria, que Marianne a croisée dans le métro et avec qui nous avons eu un échange téléphonique adorable.
Non, voilà. Tu peux expliquer.
Oui, pourquoi
Marianne a tenu à te la présenter? Parce que c'est une vraie fan de Barbara Lefebvre, à tel point que je crois qu'elle note toutes tes expressions, elle t'imite.
Peut-être pas toutes mes expressions, mais elle note certaines de mes expressions dans un cahier parce que voilà, elle trouve que il y a des formules qu'elle trouve intéressantes.
Donc il faudrait lui présenter le docteur Marty alors.
Et c'était tellement sympathique, on a eu une conversation très sympa. Elle est franco-espagnole, elle est de Valladolid, qui est une très belle ville en Espagne. Donc voilà, donc bonjour à l'Espagne et surtout bonjour à Maria Dolores.
Je propose à Maria Dolores de nous appeler au 3216 et de nous montrer ses talents d'imitatrice de Barbara. On
en veut encore.
Barbara.
Non, mais surtout bonjour à Maria parce que vraiment ça m'a fait très plaisir.
Éviter de l'inviter parce que Barbara en stéréo, ça doit être violent quand même.
Ça doit faire. Non, mais je suis sûr qu'elle.
Ça va, ouais, salut à tous. Et bonjour à Maria aussi alors.
Voilà.
Maria.
De quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les GG, dans les Grandes Gueules? On va parler d'un changement d'habitude de consommation dans la périphérie des villes, et en particulier, c'est le Parisien qui nous raconte ça, dans les Yvelines, du côté des Mureaux, où Auchan ferme et les habitants des Mureaux préfèrent la nouvelle chaîne de supermarchés qui s'appelle H-Market. Qui ne vend que du halal. Il n'y a pas d'alcool. Les caissières sont voilées et pour H-Market, ils ouvrent de plus en plus de magasins. Alors est-ce que c'est la loi du marché ou est-ce que c'est du repli communautaire? On en parlera tout à l'heure à 10h. À 11h20, on aura un GG 7 et match sur la candidature de François Ruffin. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Mais premier sujet de discussion, nous allons revenir sur ce qui s'est passé hier dans le bureau du ministre de l'Éducation nationale, M. Papendiaï.
RMC, les Grandes Gueules.
Papendiaï avait pris l'engagement sur BFM TV face à Olivier et moi la semaine dernière de suivre personnellement le dossier du suicide de l'INSEE, cette adolescente harcelée, et il avait promis donc de recevoir les parents rue de Grenelle au ministère de l'Éducation nationale. Ça a été fait hier après-midi. Le problème, c'est qu'à la sortie du rendez-vous, c'était la déception et la colère rentrée pour la maman de l'INSEE.
Moi, je ne l'ai pas trouvé sincère, en fait. Donc, j'attends que les choses bougent. J'attends de voir des actes. Il doit nous tenir informés de ce qui va se passer. J'attends de voir.
Au niveau du dialogue, on n'a pas senti vraiment affecté par la situation de notre fille.
Moi, je voudrais que ma fille revienne aujourd'hui. Je pense que s'ils auraient été là avant, elle serait là, ma fille. J'ai juste ça à vous répondre. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On n'a pas été aidés à temps. Ni avant, ni pendant, ni après, comme je l'ai dit.
Voilà, on n'a pas été aidé, c'est ce que disent les parents. Je me sens seul et on n'a pas senti un ministre sincère ni touché.
C'est terrible pour Papendiaï parce que il reçoit la famille sort de l'entretien et ça tourne au réquisitoire. C'est assez rare de voir ça quand même. En général, la famille dit, le ministre nous a reçus, voilà. Là, non, c'est que, il nous a reçus, il n'est pas sincère. D'ailleurs, dans la foulée, ils annoncent qu'ils vont voir Brigitte Macron demain. Donc finalement, Papendia, ça sert à rien, on va voir directement la patronne, entre guillemets. L'avocat des parents de l'INSEE qu'on a vu là sur l'image, maître Pierre de Buisson, il va fort. Il dit Papendia, il nous dit que l'État français n'est pas aujourd'hui capable d'enrayer le harcèlement, le cyberharcèlement. Cet aveu d'impuissance est sidérant et inacceptable. Alors c'est peut-être un peu fort de café, parce qu'il y a eu quand même des choses sur le cyberharcèlement, ça va peut-être pas assez vite, mais il y a quand même des lois, etc. Mais visiblement, pour la famille, tout ça n'est pas suffisant. Alors en fait, ce qu'on reproche à Papendiaï, c'est d'avoir dit chez nous, sur BFM TV, que le suicide de l'INSEE était un échec collectif. Or, pour la famille, c'est l'échec, il est avant tout l'échec de l'institution qui n'a pas su protéger l'INSEE. Tout le monde était au courant. Le principal du collège qui est vraiment montré du doigt, mais aussi les policiers qui n'ont pas pris la mesure lorsqu'ils ont été les voir du problème. L'académie du Nord, puisqu'on est dans le Pas-de-Calais. Voilà. Alors, est-ce que vous trouvez que cette famille a raison de s'en prendre ainsi à Papendiaï, ou est-ce que c'est peut-être un peu trop dur et qu'on fait porter un chapeau trop grand au ministre de l'Éducation nationale?
Mais cette famille, d'abord, il faut saluer sa grande dignité et le professionnalisme de son avocat. J'ai cru entendre d'ailleurs sur certains plateaux de télévision poindre quelques critiques. Attention, trop grande pression médiatique. Il ne faut pas exercer une telle pression médiatique. Mais si, bien sûr que si.
Il faut
l'exercer, bien sûr. Surtout que ce cas, il est particulièrement emblématique. Et on peut comprendre la colère de cette famille parce que quand vous avez un enfant qui est victime de harcèlement, mais que les choses ne sont pas sues, que vous découvrez la situation et que cet enfant va jusqu'à se suicider, vous vous sentez démuni. Mais là, ce sont des gens qui ont sonné toutes les sonnettes d'alarme. Cette petite fille, cette jeune fille, elle a alerté tout le monde. Elle a eu le courage d'aller à la police. Voilà. 5 pages de déposition. Et il faut le faire, hein, à 13 ans, d'oser aller à la police avec ce qu'elle subissait. Ils ont alerté tout le monde. Ils ont même écrit une lettre à Monsieur Macron. Mais il faut croire que c'est pas arrivé sur le bureau de Brigitte, parce qu'apparemment, il faut d'abord parler à Brigitte Macron avant de pouvoir être entendu par le président de la République. La preuve en est, c'est Madame Brigitte Macron qui les reçoit. Excusez-moi.
Ah, c'est son combat, en fait.
Non, je suis navrée. Madame Macron n'a pas de mandat. Madame Macron n'a pas de mandat. La situation est telle qu'aujourd'hui, c'est le président de la République qui devrait les recevoir.
Bien sûr.
Et pour s'excuser notamment, ce que M. Papendiaï a refusé de faire, non seulement hier, mais encore ce matin sur France Info, puisque le journaliste lui demande « Est-ce que vous leur avez présenté les excuses d'Éducation nationale ?» Et il a recommencé. C'est une faute collective. Ce n'est pas une faute collective, c'est une faute des institutions.
Il y a des
enquêtes administratives. De l'institution policière et de l'institution scolaire. Donc cette famille a tout à fait raison et moi, j'espère qu'ils vont continuer, que les médias vont continuer à leur donner la parole pour qu'on suive cette histoire, parce que aujourd'hui, la grande muette qu'est l'Éducation nationale ne dit rien. C'est effectivement seulement Monsieur Papendiaï qui va un peu au front. Mais enfin, il est bardé de 1000 boucliers en nous expliquant que c'est la faute de Facebook, c'est la faute d'Instagram, c'est la faute des parents qui leur ont parti récent.
Et puis, on peut s'interroger sur la responsabilité quand même aussi.
Oui, mais moi, je suis navré.
Pourquoi le terme de collectif te choque? Parce que, effectivement, il y a l'institution scolaire, mais il y a aussi les réseaux sociaux qui ont un rôle. Il y a les parents, puisque je rappelle d'ailleurs qu'il y a une maman qui est poursuivie dans cette histoire. Il y a des mineurs. La justice quand même fait son travail et il y a une maman qui est poursuivie pour menace de mort. Donc
oui.
On voit bien quand même qu'il y a une chaîne de responsabilité.
Et par ailleurs, apparemment, certaines de ces gamines vivent dans des milieux dans lesquels il y a aussi quelques petites carences éducatives.
Sûrement.
D'après le profil d'une ou deux, dont une est quasiment tout le temps déscolarisée avec des parents particuliers.
Démissionnaires.
Donc c'est moi, oui, à minima. Donc il y a un moment, c'est une erreur, c'est une faute aussi, parce que ces harcèlements, ils commencent où? Qu'ils se poursuivent sur les réseaux sociaux, on est bien d'accord. Mais où est-ce qu'ils ont connu l'INSEE? Ils se sont connus dans l'établissement scolaire et c'est là que ça a commencé, au vu et au su de toute l'équipe éducative. Donc moi, je suis navrée. Le silence des enseignants et le silence de ce chef d'établissement, bien sûr qu'on ne peut pas les tenir pour responsables tout de suite sans aller au bout de l'enquête, mais c'est quand même très étrange cette omerta-là. Et moi, je dis que la famille a raison. Et je sais que ça les met mal à l'aise, hein, que cette famille s'exprime comme ça, de façon claire et nette, parce que d'habitude, une fois qu'on a vu le ministre, votre avocat vous dit « Allez, maintenant, on se calme ». Là, ils ont raison et surtout, ils le font avec beaucoup de dignité, beaucoup de clarté, beaucoup de calme, et c'est très bien qu'ils continuent.
Donc, malheureusement, en ce moment, les exemples dramatiques s'enchaînent. Hein, c'est le problème. Mourad et Jérôme.
Non, mais clairement.
Vas-y.
Non, mais clairement, si ça gêne le ministre, le gouvernement, on s'en tape, quoi. C'est pas le problème. Cette famille, elle a perdu un enfant, elle a perdu un enfant par suicide. Les mots de la mère, j'aimerais que ma fille revienne, sont terribles, quoi. Terribles. Je sais pas si on sous-pèse vraiment ça, quoi.
Après, rien.
Comme tu l'as dit, tout a été fait, tout a été tenté. Et en face, il se heurte à un mur. Oui, les réseaux sociaux ont joué un rôle aussi. Et oui, rien n'est fait là-dessus. Ça fait des mois et des mois qu'il existe une barbarie numérique qui se développe. Une barbarie numérique. Que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Et on laisse faire. Ça fait des mois qu'on voit des menaces de mort partout, jetées comme ça très facilement derrière des pseudos. Et on fait rien alors que dans la vie réelle, on ferait. Comme si ça n'existait pas. Ça fait des mois qu'on laisse du harcèlement en bande organisée se mettre en place partout, tout le temps, à chaque moment, le jour, la nuit, qui vise des gens qui, s'ils sont fragiles, feront le dernier geste, feront le drame. Mmh. Et on regarde ça comme un spectacle. Comme un spectacle. Et tout un tas de gens regardent ça pour s'amuser. Oh, qu'est-ce qu'il lui a mis ? Et enfin, on devient fou, quoi. Je veux dire, si on n'est pas capable, aujourd'hui, de poser la main et de dicter véritablement un pouvoir sur les réseaux sociaux, mais on aura de plus en plus de drames comme ça. De plus en plus. Donc le ministre, il peut pas ne pas être au courant de ce qui se passe dans ce pays. Il peut pas. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'on voit monter la haine sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. La violence, elle est là tous les jours. Mmh. Tous les jours. Et là, on a une gosse de 13 ans qui avait fait toutes les démarches possibles, qui a souffert au-delà du raisonnable et qui s'est tuée. Mmh. Ben, la moindre des choses, quand même, c'est de mettre des choses en place et de dire...
Et de trouver les mots. Nous n'étions pas dans le bureau, hein, mais quand la maman, le beau-père disent on n'a pas été touché, on n'a pas entendu les mots qu'il fallait.
Désolé, écoutez-le ce matin.
Quand tu es face à une famille dont la fille s'est suicidée...
Mais tu l'écoutes ce matin, c'est toujours pareil, c'est une espèce de tonalité comme ça, monocorde, nous allons agir, nous allons tout faire, c'est une erreur collective. Il récite quelque chose qui est complètement mécanique.
Un dossier.
Peut-être que lui, c'est sa façon d'être.
Les éléments de langage qu'on a donné.
Un dossier. La personnalité de chacun, il y a des gens qui sont mécaniques dans leur façon de parler, ça n'empêche pas qu'ils puissent avoir des émotions, ça d'accord. Mais justement, tes émotions, tu les laisses affleurer quand devant toi, tu as une famille qui vit cette tragédie absolue. Quoi.
Oui. Mourad. Alors, le harcèlement sur les réseaux sociaux, je ne pense pas que le ministre de l'Éducation puisse faire grand-chose. Par contre, le harcèlement dans les collèges, dans les lycées, il y en est responsable. Moi, je l'ai vécu pour une personne de ma famille et j'ai rencontré des proviseurs en principal qui auraient d'abord dû s'acheter une paire de couilles. Mais vraiment, parce qu'ils n'avaient pas de couilles face au harceleur, ils tremblaient, ils avaient très peur. Et j'aurais peut-être eu un membre dans ma famille qui serait à la place aujourd'hui comme la petite Lindsay si j'avais pas fait comme l'a fait Pasqua, à terroriser les terroristes. Parce qu'on est obligé de s'en occuper soi-même. Voilà, la police fait rien. Et ça, c'est la réalité du monde aujourd'hui. Alors, si on continue comme ça avec des tas de principes, si quand un chien te mord, on t'explique qu'il faut le caresser pour qu'il arrête de te mordre, on va aller à la catastrophe. Ce pays va péter. Voilà, parce que ça, c'est la réalité aujourd'hui dans ce pays. Il y a des choses à régler. On va pas les régler par de la prévention. On va les régler par de la répression. Le temps de la prévention est terminé aujourd'hui. On est allé trop loin et c'est trop grave. Alors, tous ceux qui pensent, comme le ministre, qu'on va régler les choses avec des mots, la seule chose qu'on peut régler pour le ministre, c'est qu'il démissionne. Ça pourrait peut-être régler et mettre quelqu'un qui a de la poigne à côté. Mais aujourd'hui, c'est plus possible dans ce pays. Soit il pète, soit il explose, soit on met en place des véritables mesures et on regarde les choses en face. Et Dieu sait si ça me touche de dire ça. Parce que ça fait pas partie de mes idées premières. Mais aujourd'hui, face au monde réel, pour l'avoir vécu, je peux vous dire que ce qui se passe dans les établissements scolaires, c'est très grave. Et que
harcèlement physique et du harcèlement en ligne, voilà. Il y avait les deux, c'est ça?
Absolument. Et ce qui se passe dans les établissements scolaires, c'est très grave. Et les personnes qui dirigent ces établissements ont été formées il y a 20 ans pour ce qui se passait il y a 20 ans. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qui se passait il y a 20 ans. Et ils sont totalement dépassés. Totalement dépassés. Et la police ne fait rien. Pourquoi? Parce que la police, ils ont une charge de travail, ils ont une priorisation dans leur charge de travail. Et aujourd'hui, ce n'est pas en haut de la pile dans la priorisation. Malheureusement, parce qu'il y a d'autres urgences.
Et puis, faut savoir quand même que le collège où était scolarisé l'INSEE était dans le programme, le fameux programme phare, n'est-ce pas?
C'est prévention,
voilà.
Harcèlement.
Oui, voilà. Alors, on se dit, et monsieur Papendia, il nous explique que ce programme marche tellement bien qu'on le généralise. La preuve en est, ça a tellement bien marché que dans ce collège, ils étaient dans le programme phare. Et pour autant, non seulement personne n'a rien vu, mais en plus, apparemment, on a une partie de l'équipe éducative qui a couvert et disait à l'INSEE, arrête avec tes chamailleries, tu nous casses les oreilles. Ah ben, ils n'avaient pas bien compris le programme phare,
Mais peut-être que ce qu'on reproche à Papendia, C'est pas un politique, c'est un universitaire, c'est plutôt un intellectuel. Il a pas la roublardise, entre guillemets, d'un Sarkozy, d'un Chirac, des gens qui savaient aussi prendre la famille. Peut-être qu'hier, s'il était sorti en même temps que la famille, s'il s'était posté derrière eux, ils auraient pas dit ça.
Olivier.
Alors après.
Non. Olivier, moi, je sais pas, on cherche pas de lui.
Moi, Olivier, ce qui manque à Pape Ndiaye, c'est peut-être que moi j'ai envie d'un peu de défendre parce que je pense que il est sincère. Effectivement, il a une forme d'impuissance face aux réseaux sociaux, mais il est pas le seul, hein. Ouais. Pardon. Il est le patron d'un million de personnes. Hein. Il y a un million de personnes dans l'éducation nationale. Donc, il y a des académies visiblement qui ne jouent pas le jeu. Peut-être que cette académie.
Olivier, ils vendent de l'image. Les gens ne veulent plus d'image. Ils veulent des solutions. Pape Ndiaye, ils vont que de l'image. Il y en a marre de l'image des politiques. On veut des solutions concrètes.
Quand tu perds ta fille, aucun ministre ne pourra compenser
ça. Olivier, ce que ça m'évoque, c'est au-delà de Pape Ndiaye, c'est qu'on a l'impression que parce que c'est des vies d'enfants. C'est pas des vrais problèmes. C'est des vies d'enfants, donc c'est subalterne. Si c'était des adultes, par contre, là, on s'en occuperait. Mais comme c'est des vies d'enfants, c'est pas très grave, quoi, ce qu'ils vivent.
C'est une émotion. Donc,
Quand t'as la gosse de 13 ans qui va porter plainte, etc., comme elle le dit avec
Pape
Ndiaye ou un autre. On prend pas le problème à la hauteur de son importance.
C'est Darmanin, devrait s'expliquer.
Évidemment.
Dans un instant, Mélanie, assistante de direction, dont la fille est harcelée au collège, et elle estime qu'aujourd'hui, face à cette question, qui est un véritable fait de société, l'État, oui, et le ministre sont dépassés, ne comprennent pas et ne réalisent pas ce qui se passe. Elle témoignera, Mélanie, elle nous appelle de la Loire.
RMC, 9h midi, les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story aujourd'hui, Barbara Lefebvre, Mourad Boudjelal, Jérôme Marty et Mélanie qui va témoigner. Mélanie qui est avec nous en direct au 32-16, coup de fil qui vient de la Loire, de Chazelles-sur-Lyon. Bonjour Mélanie.
Bonjour à tous.
La question que l'on pose, c'est est-ce qu'à votre avis, le ministre de l'Éducation nationale et même l'Éducation nationale sont dépassés dans ces affaires de harcèlement? Et vous avez un exemple.
Alors, je pense que tout le monde est dépassé à son niveau, en fait. Mm-hmm. Que ça soit les parents, en premier lieu, et je dirais même les parents des harceleurs, en fait. Les professeurs, les principaux des collèges, lycées ou même des écoles élémentaires, et évidemment, ensuite, le sommet de l'État. L'exemple de ma fille. Alors j'ai de la chance, c'est que ma fille est quelqu'un qui a beaucoup de recul sur elle-même, beaucoup d'autodérision et qui est assez mature pour son âge. Elle n'a que 12 ans, qui est depuis 2 ans persécutée par un petit merdeux qui s'amuse tous les jours à lui dire que c'est une erreur de la nature, qu'elle va contaminer qu'elle est contagieuse, voilà, etc. C'était voilà. Bon, nous
ses
avons
ses parents sont frères et sœurs.
Non, je sais pas, mais ses parents, je ne sais pas. Ah. Ou alors, apparemment, il serait élevé comme un enfant roi, ce petit
garçon. C'est unique.
Non, même pas. Mais bon, je sais pas quel modèle de.
Mais vous avez été voir les parents ou pas?
Alors, moi, je ne suis pas allée voir les parents parce que j'habite assez loin de là où résident mes enfants avec leur papa. Par contre, j'ai appelé le collège. Nous avons appelé le collège. J'ai parlé avec le principal du collège. Ça n'a pas changé grand-chose puisque en début d'année scolaire, ils l'ont remis dans la même classe que ce petit garçon.
Oui, intelligence.
Voilà. Oui. Et que l'année prochaine, elle risque encore d'être avec ce garçon-là.
Mais ils sont même pas capables de les séparer, au moins, de pas les mettre dans la même classe.
Non.
Ça, c'est pas compliqué, ça.
Ce n'est pas compliqué. Oui. Et on dit à ma fille que c'est à elle de faire profil bas, en fait.
Ah oui. Ah. Voilà. Oui, souvent, comme souvent.
Parce que je explique,
c'est un grand principe, il faut tendre l'autre jour.
Attendez, votre fille, pardon?
Ma fille est transgenre. En fait, elle se sent garçon à l'intérieur, en fait.
D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y en a à foutre, l'autre?
Apparemment, ça gêne.
Elle est moquée pour ça?
Elle est pas moquée, mais elle est quasiment insultée.
Ah oui, là, c'est transgenre. Et ça continue. Il y a les attaques comme ça, physiques, enfin quand je dis physique, verbal, physique, mais en face à face. Et ça continue sur les réseaux sociaux aussi?
Alors non, parce que ma fille n'a pas le droit aux réseaux sociaux.
D'accord, ça, c'est très bien. Vaut mieux, effectivement. Voilà. Vaut mieux. Sage précaution.
Ça règle
une partie c'est comme le travail. Quand on part du collège, on ferme la porte du collège, on rentre chez soi et on... voilà.
Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que le harcèlement se poursuit après le collège, avec les réseaux sociaux. Parce que le harcèlement, ça a toujours existé. On a connu ça quand on était gamin.
Mais
c'est pas nouveau. Hein. Parce que là, on fait mine de découvrir un phénomène. Enfin, pardon, mais on se souvient qu'à l'école, on a tous eu des camarades qui étaient des souffre-douleurs. Alors, on n'appelait pas ça du harcèlement.
Non, mais c'est pas un bouc émissaire.
Attendez, Mélanie, parce que.
Moi, j'ai vu des scènes où ils se faisaient taper. taper dessus. Ouais, ouais. Ou, enfin, pardon,
mais Mélanie, comment est-ce que vous allez pouvoir faire l'année prochaine avec votre fille qui est aujourd'hui effectivement dans une situation en plus particulière vis-à-vis de ses camarades de classe, quoi. Comment alors, ça va se passer alors?
Alors, bah, moi, ce que j'essaye d'expliquer à ma fille, c'est que de toute façon, elle va devoir se battre toute sa vie, en fait, vis-à-vis de qui elle est. Ça commence tôt. Aujourd'hui, ça commence à 12 ans, mais ça sera toute sa vie. Donc, elle a assez de recul. Moi, ouais. Je lui ai dit, alors attendez, c'est très très mal. Alors, je ne dis pas, ne le faites aux parents, ne faites pas ça. Ne dites pas ce que j'ai dit à ma fille. Mais ma fille est assez intelligente pour savoir quoi prendre dans ce que je dis. Je lui ai dit, écoute, la prochaine fois, tu le tapes. Hein. Et tu le couches, il fait une tête de moins que toi, tu prendras 3 jours d'exclusion, mais au moins, ce sera fait. Hein,
ouais,
non, d'accord. Je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est moi, je ne vais pas toucher à ce petit garçon de 11 ans, en fait. Qui est juste mal élevé. Je vais plutôt m'attaquer aux parents, en fait. Et moi, qui suis procédurière.
Les parents sont.
Mais vous les avez rencontrés, les parents, ou non?
Ils sont au courant.
Les parents sont au courant.
Ouais, mais les parents, ils sont pareils, alors. Voilà. Je veux dire, cherchez pas, j'ai des chiens, font pas des chats. Hein.
Voilà, alors il paraît qu'il aurait pris une baffe. Ouais. Voilà. Bon. Vrai, pas vrai, ça ne me regarde
d'accord,
pas.
D'accord, mais vous avez.
À l'école.
Bah, enfin, en tout cas, votre fille, elle peut se construire là-dessus.
Elle prend le problème de manière sérieuse, quoi, en fait. C'est ça.
Voilà, c'est ça. Elle n'a que 12 ans. C'est un caprice d'adolescent. Voilà. Non. Voilà.
D'accord.
C'est un être humain et on la respecte en tant qu'être humain. Voilà.
Merci de cet exemple, absolument. Mélanie. Merci d'avoir témoigné, d'avoir été avec nous. Linda nous appelle du Nord. Bonjour, Linda.
Bonjour
Linda. Bonjour. Alors, est-ce bonjour, que Linda. Pape Ndiaye et l'éducation nationale sont totalement dépassés face à la question du harcèlement ou pas?
Alors moi, je voulais... est-ce que Pape Ndiaye... Alors, je pense que le niveau d'emprise qu'ils peuvent avoir est limité, en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des défauts de surveillance, qu'il n'y a pas... Je ne nie pas la responsabilité des professeurs. Mais moi, je suis maman de 5 enfants et je me pose une question qui est très simple. En fait, bon, on peut chercher un... Il y a l'outil, en fait, qui a aggravé le harcèlement, c'est bien le smartphone. Tout le monde est d'accord sur ce constat-là ou pas?
C'est
les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est le smartphone. Alors, le smartphone, je veux dire, c'est un outil. Alors, on sait que ça crée de la dépendance, que ça empêche les enfants de se développer correctement. Il y a beaucoup plus de suicides et de cas de harcèlement grave à l'âge du collège plutôt qu'au lycée. On est toujours d'accord là-dessus?
Oui, c'est au collège.
Et donc, au bout d'un moment, est-ce que les collégiens sont capables de gérer la bête, comme j'appelle? Et au bout d'un moment, ce serait bien que les adultes de ce pays, alors on montre du doigt les enfants, on montre du doigt l'éducation nationale, mais qui met des smartphones dans la main des collégiens?
Oui, c'est les parents, mais vous avez raison.
Oui, mais on les met pas pour les réseaux sociaux, on les met pour savoir où ils sont.
Non, mais il a raison. Elle a raison, pardon, mais les parents sont.
J'ai cinq enfants, et mes enfants, quand ils sont rentrés au collège, je leur ai acheté ce qu'on appelle une brique. Un téléphone qui téléphone et qui envoie des SMS. Ça existe encore aujourd'hui.
Et vos enfants ne vous ont pas renié?
Mais pas du tout, mais faut arrêter, il faut se replacer. Mais je suis d'une bienveillance totale, j'explique à mes enfants. Et concrètement, ils ont très bien compris. Et j'ai mes aînés, là, qui ont 18 et 16 ans, et qui ont eu un abonnement Internet et un smartphone à l'entrée en seconde. Ils ont 15 ans, ils en ont pas 12, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faudrait aussi un petit peu se regarder en face.
Oui, mais ça va au-delà du smartphone.
Excusez-moi,
ils n'ont pas d'ordinateur le soir à la maison non plus?
Pardon?
Ils n'ont pas d'ordinateur le soir à la maison, vos enfants?
Pas de connexion Internet sans ma surveillance. D'accord. Avant la seconde, quoi.
Mais juste un point, Linda, pour revenir sur l'affaire de l'INSEE. Ouais. Lorsque Pape Ndiaye dit à cette famille, puisque c'est ce qu'ils ont rapporté avec leur avocat, que, et enfin, du moins, c'est aussi ce que lui avait dit le chef d'établissement, surtout, qu'il fallait retirer le smartphone de l'INSEE. Est-ce que vous pensez que ça, c'est la réponse qu'on peut apporter à des parents qui viennent se plaindre de harcèlement? C'est-à-dire qu'ils ont porté plainte à la police, ils alertent tant et plus, et la réponse que le chef d'établissement leur donne, c'est « Madame, enlevez le portable de votre enfant ». Mais c'est pas parce qu'on va lui retirer le thermomètre que ça va régler le problème.
C'est pas là mon propos. D'ailleurs, j'ai bien dit au départ que je ne niais pas la responsabilité de l'éducation nationale et que effectivement les réponses ne sont pas les bonnes.
Mais vous dites que s'il n'y avait pas le smartphone,
c'est de quoi je parle. Mais par contre, en tant que parent, mais alors il est possible. Mes enfants ne sont pas désocialisés. Ils ne sont pas hors du coup. Ils ne se sentent pas exclus. Mais pas du tout. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, comme vous dites, mes enfants ne m'ont pas renié.
C'est plutôt harceleur qu'il faut retirer le portable. Pourquoi c'est toujours les victimes pour lesquelles on prend
le monde?
Il faut prendre le problème.
Harceleur au départ, ça se voit pas sur sa tête.
Oui, bien sûr.
Compliqué.
Ça se voit sur ses tweets.
Je vais finir par ça, s'il vous toutes les gens sur Tupi. Je vais finir par ça. Il y a une tribune qui est parue il y a un mois, je pense, peut-être quelques semaines dans Le Monde, oui, où il y a plein de professionnels de la petite enfance et de l'enfance qui demandaient au gouvernement d'arrêter les recommandations pour les moins de 16, les moins de 18, les GTA. Hein, aujourd'hui, on peut mettre un gamin devant GTA. C'est pas interdit par la loi. C'est pas recommandé, par contre. Et ces professionnels-là, ça fait 10 ans qu'on demande aux parents de réduire le smartphone, de faire attention. Il n'y a rien qui fonctionne. Ces professionnels-là ont demandé une interdiction.
Ouais.
Ouais.
Mais peut-être qu'on va y arriver.
Mais il faut quand même prendre le problème à la source. Les réseaux sociaux, ce n'est qu'un outil de propagation de la haine, quoi. Quand vous lancez quand vous lancez une attaque ou un harcèlement contre quelqu'un, ensuite, quand vous prenez le relais sur les réseaux sociaux, de 15 personnes qui sont au courant de ce harcèlement et qui le font dans une école, vous passez à des milliers. Donc, si vous stoppez pas à la racine, après, vous pouvez plus rien faire, presque, quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on soit extrêmement dur vis-à-vis même des gosses qui débutent ce genre de choses. Il faut prendre le problème à sa source.
D'accord, mais le harcèlement, tu n'arriveras jamais, il n'y aura jamais.
Non, mais ce que je veux dire,
harcèlement dans un collège.
Ce que je veux dire, c'est qu'on a un retard. On a un retard, y compris à l'éducation nationale, on a un retard phénoménal par rapport au modèle de vie actuel. C'est-à-dire qu'on continue à faire comme si ça n'existait pas, comme si le réseau social n'existait pas.
Oui, mais...
Et donc, on considère comme normal, presque, le fait que quelqu'un lance comme ça des insultes ou des menaces sur un réseau social.
Mais on ne dimensionne pas
la peine à ça, quoi, si tu veux.
Non, mais
c'est ça qui est gravissime.
D'accord, mais j'ai bien compris. Mais en Irlande, par exemple, il y a des parents d'une ville qui ont tous décidé et se sont réunis pour refuser les smartphones à leurs enfants. Se sont mis d'accord. Voilà, on dit il y aura aucun enfant aura un smartphone. Bah, c'est peut-être radical, mais c'est peut-être aussi une réponse.
Je voudrais quand même rappeler que nous vivons dans un pays où les téléphones sont censés être interdits dans les établissements scolaires. Vous voyez, non mais regardez simplement cette réalité. Nous vivons dans un pays où la loi interdit d'avoir un téléphone dans les établissements scolaires, et pourtant, chaque élève qui rentre dans l'établissement a un téléphone dans son sac.
D'utiliser.
Mon œil.
On va en avoir un dans ton
et
sac.
Et mon œil.
Fermé.
Je peux vous citer, en ce qui me concerne, je le dis, ma fille, pendant son cours d'art plastique, et ça lui posait des problèmes puisqu'elle n'a pas de smartphone, ça lui posait un problème parce que le prof d'art plastique autorise qu'on se serve de son smartphone pour chercher l'inspiration pendant le cours d'art plastique. Ce qui déjà, moi, personnellement, je suis pas prof d'art plastique, mais ça me pose un problème. Je pensais que l'inspiration, justement, en art, ça doit te venir de ton imaginaire. Non, il autorise les élèves. Ce qui fait que ma fille n'ayant pas de smartphone, c'est encore la crise parce que elle a effectivement le petit téléphone à l'ancienne. Bon, donc. Le problème, il est là, c'est quand vous avez des enseignants qui eux-mêmes transgressent la loi et autorisent les élèves, ou même leur disent après les cours, faites vos recherches, et ben vous recherchez sur votre smartphone, etc.
Mais comme à l'ordinateur.
Et ben moi je suis navrée. Il y a ou bien la loi on interdit, ou bien la loi on autorise.
Non, mais on en revient.
Donc moi je suis navrée.
On en revient, Barbara. On en revient.
Non, le problème, juste pour terminer, le problème c'est l'effet de meute. T'es d'accord sur les réseaux sociaux. Donc là-dessus, l'effet de meute qui est responsable, c'est la plateforme. Moi je suis navrée, effectivement, quand tu entends le ministre qui te dit on peut rien faire parce que les plateformes, et d'ailleurs sur tous les plateaux, les avocats l'ont dit, même avec des commissions rogatoires, les Twitter et compagnie veulent pas lever l'anonymat. Moi je comprends même pas que tu puisses parler sur un réseau social sous l'anonymat.
Il y a une loi qui va faciliter les choses qui arrivent cet été.
Bah, moi je comprends pas les gens. Si les gens avaient un peu les cojones, comme disait Mourad. Bah, tu écris sous ton vrai nom, quel est le problème?
Non, sur les collèges, les écoles, on en revient à la problématique, au questionnement, faut-il un uniforme à l'école ou non? C'est-à-dire, faut-il uniformiser et créer l'appartenance du groupe à l'école, quoi? Parce que si tu commences à accepter que l'un amène son portable ou son smartphone à X centaines d'euros, les pompes à grand coup. Mais non, mais ça fait partie du truc. Ça fait partie du harcèlement.
Le problème,
tu crées une appartenance. La question, c'est est-ce que ça se passe? Est-ce que dans les lycées, par exemple, ou dans les collèges anglais où tu as un uniforme?
Mais non seulement.
Mais Jérôme, tu sais très bien qui est harcelé. Bah, c'est celui qui est un peu différent des autres. C'est le petit, un peu fragile. On va lui taper dessus. C'est celui qui est un peu gros, un peu obèse. Donc ils ont
pas forcément.
Le harcèlement.
C'est marrant, tu l'as pas dans le rugby, ça. C'est rigolo, dans le rugby, c'est le seul sport où t'as toutes les tailles, t'as pas ça.
Aussi. Non, mais c'est mieux. Moi, j'ai déjà vu.
Il y a l'arbitre des violents.
Mais parce que tu crées une appartenance.
Dans le rugby, t'as des violents. On l'a vu récemment. Il y en a qui frappent leur femme.
Si tu crées pas une appartenance, c'est-à-dire si l'appartenance à l'école dont tu fais partie est plus importante que le reste.
Et tu n'empêcheras pas.
Tu n'arriveras pas
à l'âge des collégiens où on est un peu bête.
C'est les hormones. C'est normal. C'est pas une question bête, les hormones.
C'est les hormones. Tu n'empêcheras pas ce truc. Le seul truc que tu peux faire, c'est réduire la puissance des réseaux sociaux.
L'outil premier, l'usage premier, ces réseaux sociaux, c'est pas de devenir des corbeaux. En dénonçant des gens, et pourquoi est-ce qu'on arrive à cet usage aujourd'hui?
Je suis d'accord avec Jérôme sur le fait que normalement l'école est un lieu aussi où tu apprends, où tu n'es plus toi-même, tu es un élève. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rentres dans la communauté scolaire, c'est une sorte de petit monde. C'est un petit monde qui joue.
Ça c'est dans le métavers,
qui joue en quelque sorte la société dans laquelle tu seras un adulte, un citoyen.
Le monde idéal, ça.
Non, c'est pas un monde idéal,
c'est la base même. Tu as trop regardé La petite maison dans la prairie, Barbara.
Mais non, c'est la base même de l'école.
Je ne sais pas quelle est votre vision de l'école républicaine, mais je crois que la vision de l'école républicaine de la Troisième République.
Non, mais c'est un idéal.
Ça doit traverser les âges.
Tout est un idéal dans une société. Tout est un imaginaire. Tout est un idéal. Mais dans ce cas-là, la liberté aussi, l'égalité aussi, ce sont des idéaux. Si on ne se bat pas pour les faire advenir, dans ce cas-là, laissez la loi du plus fort. Dans ce cas-là.
Moi,
ce que je veux simplement dire, c'est que.
On dit qu'il faut en conclusion.
Je suis d'accord avec Jérôme, sauf que nous vivons dans un monde où l'éducation nationale elle-même fait la promotion de quoi? De viens à l'école sois toi-même, au contraire, l'école est
Barbara,
là.
Je suis pas éducateur,
il
y a que toi qui parles, Peter, tu fais un monologue. Excuse-moi.
J'espère que tu plaisantes.
Je suis très sérieux. Attends, on peut faire un arbitrage vidéo si tu veux et tu verras que tu as raison.
Non, mais je cherchais juste à finir une phrase par rapport à ce que dit Jérôme, tu coupes
Mais tu arrêtes pas de finir, tu fais que finir depuis tout à l'heure. Tu n'en finis pas de finir.
Sauf que c'est fini là.
En 30 secondes,
c'est fini.
C'est trois petits cons. Explique-leur simplement que c'est leur maman qui va payer, que c'est les parents qui ont la responsabilité. Tu vas voir comme ils vont vite se calmer.
Harcèlement scolaire, Papendia, est-il totalement dépassé, oui ou non? Question qu'on a posée. On va regarder. Tiens, sur les réseaux sociaux, justement. Oui, 95%, Papendia est complètement dépassé. Allez, à tout de suite avec le 11.
On avait dit Papendia et Macron.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec Barbara Lefebvre, enseignante, Mourad Boudjella, l'éditeur de bande dessinée, Jérôme Marty, médecin généraliste, et c'est l'heure du on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Avec notre peintre en bâtiment aujourd'hui, Anaïs.
Elle est très belle comme ça.
Parce que je porte une combinaison.
Oui, t'as tout le temps des combis ou de pompistes ou de peintres
en
bâtiment.
C'est très à la mode.
Pour les GG, 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, avec des craintes, comme à chaque fois, que des violences émaillent les cortèges. À Paris, 1000 éléments radicaux sont attendus. Pas de quoi, pour autant, inquiéter le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Écoutez.
Le Black Bloc sera bien là, on les attend. Comme à chaque manifestation, ils viennent là pour perturber la manifestation, c'est leur seul but. Ils dégradent des vitrines, ils attendent que les forces de l'ordre interviennent pour ensuite s'en prendre aux forces de l'ordre. Donc évidemment, nous les attendons comme à chaque fois de pied ferme. Et comme à chaque fois, nous les disperserons de manière à ce que la manifestation intersyndicale puisse avoir lieu sans dommage. Et c'est comme ça que ça s'est passé les 13 fois précédentes.
On les attend de pied ferme. Laurent Nunez, donc plutôt serein. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Mourad?
On s'en fout pas.
Jérôme?
Non, on s'en fout pas, non.
Barbara?
On s'en fout pas.
Mourad?
Ah ben moi, si j'étais les Black Blocs, aujourd'hui, c'est la fête, quoi. Je veux dire, il est défi. Oui, il a bien. On a vu, en plus, que jusqu'à présent, c'est quelque chose qu'il a totalement maîtrisé. Il n'y a pas eu de débordement. Et comme il le gère très, très bien, bon, mais il aura dit 13e fois, revenez, on est habitué, vous allez voir qu'une fois de plus, vous allez en prendre plein la gueule. Voilà. Mais et je pense que vous êtes même pas capable d'aller plus loin encore dans vos agressions. Ben, même pas capable.
Bon, courage pour le propriétaire de la rotonde, parce que il repasse au même endroit,
Mais les mecs, ils sont inconscients, quoi. Inconscient de dire ça à des énergumènes qui déjà n'ont pas besoin d'être provoqués, ils les provoquent.
C'est les syndicats qui font les parcours et la préfecture qui les valide, c'est ça?
Oui, exactement.
En tout cas, quand Monsieur Nunez dit on vous attend de pied ferme, ça fait pas pareil que quand c'est Monsieur l'Allemand. Quand c'était le préfet allemand qui te disait on vous attend de pied ferme, là peut-être qu'il y avait quand même deux Black Blocs qui avaient un peu peur.
Mais parce qu'il avait une belle casquette. C'est la casquette qui faisait tout.
La casquette et le petit col bien serré dans le.
Un peu trop grande la casquette, peut-être d'ailleurs. Trop grande pour lui.
Non, mais Barbara, t'es pas choquée du fait qu'il soit capable de nous dire 1000. Alors déjà, 1000, je sais pas comment on peut arriver à un chiffre très précis. Donc on sait qu'ils seront là, ils sont 1000, ce qui n'est rien parce que je sais pas combien de personnes. Dans les rues de Paris, il y aura aura peut-être 50 000, 60 ou 70 000, voire 90 000. Donc c'est, et on a, on n'est pas capable de les arrêter, de les foutre au trou, et de les laisser se débrouiller.
Il
y a un défaut d'autorité.
Barbara, si tu permets, je me pose moi la question de à quoi ça sert cette déclaration? Quel est le but? À quoi ça sert? Parce que si jamais il y a de la casse, qu'est-ce qu'il fait Nunez? Il démissionne?
Non.
Si jamais il loupe son truc, puisqu'il a dit ils peuvent venir, on les attend.
Ils m'ont collé les muscles.
Qu'ils y viennent, les mecs, on les attend. Donc, s'il y a beaucoup de casse, il fait quoi? Il part? Ça sert à rien, ce truc-là. Mais non, mais ça sert à rien. Qui parle après l'événement. Et qui disent après l'événement, vous voyez comment ils étaient tant, on les a nassés, on les a tenus, il n'y a pas eu de casse, on a été très bon. Mais pas avant, quoi.
Comme monsieur Nunez.
Avant, lui-même, il se met, c'est lui-même qui se met en porte-à-faux.
Il y a un devoir de résultat.
Parce que là, on va le regarder, on va lui dire, monsieur Nunez, vous avez intérêt à être bon. Parce que là, vous l'avez dit.
Surtout que lui, il ne sera pas au premier plan.
Surtout que s'ils savent qu'ils sont là, c'est bien parce qu'ils, non seulement ils savent qu'ils vont venir, mais en plus, ils savent qui ils sont. Parce que c'est des gens qui sont fichés, le renseignement les suit. Donc c'est comme pour les supporters, les débilos qui arrivent, on les connaît aussi, les ultras.
Déjà, rien que le fait qu'ils arrivent, c'est une défaite.
Jérôme a raison, on a un État qui fait semblant de maîtriser la situation, mais qui ne maîtrise rien. Continuez comme ça, continuez comme ça, vous verrez 2027, vous verrez 2027 et vous pleurerez.
On continue, Anaïs.
Les GG, vous vous rappelez justement que la mairie de Paris avait été obligée de retirer ses banderoles de soutien aux manifestations anti-réformes qui avait été brandie sur la façade. Eh bien, Anne Hidalgo a trouvé la parade pour contourner cette interdiction. Ce sont désormais deux banderoles avec un smiley clin d'œil qui ont été déployées hier sur l'hôtel de ville, plus subtil, mais toujours un soutien implicite au mouvement. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Mourad?
On s'en fout pas.
Barbara? Jérôme?
On est tellement con qu'on s'en fout.
Mourad?
Il faudrait juste que Anne Hidalgo a réussi à comprendre qu'elle représente une entité morale, qui est la ville de Paris. Et que ce que Anne Hidalgo pense, la ville de Paris s'en fout. C'est deux choses différentes. Donc elle n'a pas le droit, en tant qu'Anne Hidalgo, d'imposer ses idées à la ville de Paris. C'est-à-dire, elle en a imposé quelques-unes. Mais là, simplement, c'est Anne Hidalgo, si elle veut, elle fait un panneau qu'elle finance Anne Hidalgo en disant Anne Hidalgo est contre la réforme de retraite, c'est son problème. Mais la ville de Paris, aujourd'hui, est une entité morale, point barre, donc qui n'a pas à prendre position sur la réforme des retraites.
Elle a tweeté cette photo, justement, de la façade avec les mots suivants. Mairie solidaire avec trois petits points pour pas effectivement dire explicitement qu'elle soutient le mouvement.
Je me demande si je préfère pas les Black Blocs finalement qu'Anne Hidalgo. Du coup, je me pose la question.
Combien ça coûte? Combien ça coûte les petites banderoles? Non, mais c'est tout, c'est l'argent des Parisiens. Combien coûtent les petites banderoles pour que Madame Hidalgo donne son avis? Je crois qu'il y a beaucoup à faire à Paris. Non, mais même si ça coûte pas cher, même si ça coûtait 10 000 balles, et ben c'est 10 000 balles de trop.
Non, mais pardon, Jérôme, mais il y a eu un procès.
10 000 balles, ça fait beaucoup de places d'hébergement pour les SDF.
Elle a été attaquée. Son avocat est payé par qui, à ton avis?
Ah ben bien sûr,
par les contribuables parisiens. Donc voilà, donc bien sûr que c'est de l'argent.
Après la ville, elle n'est pas endettée.
Voilà, je te jure, vu Toulouse, on s'en fout.
Bien sûr. Les GG, rouler sans assurance, un risque que de plus en plus de conducteurs prennent. Ils sont en hausse de 44% en 5 ans sur les routes. Constat alarmant du Fonds de garantie des assurances obligatoires. Et la moitié d'entre eux ont moins de 30 ans. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Jérôme?
Non, on s'en fout pas. Non.
Mourad?
Je vais laisser parler, je m'en fous pour les laisser parler, parce que Barbara, elle parle
Barbara,
pas beaucoup,
hein. non, mais moi aussi je vais laisser parler Jérôme.
Mais non,
Jérôme, c'est pour toi.
Non, c'est pas mon truc d'assurance, mais la question c'est, est-ce que ce sont des jeunes qui ont perdu tous leurs points?
Non.
Et donc ils peuvent pas s'assurer parce qu'ils n'ont plus de points.
Non, mais ils peuvent pas s'assurer parce qu'ils n'ont plus le permis tout court.
Mais ils ont plus le permis.
Non, on parle du défaut d'assurance.
Est-ce que ce sont des jeunes qui ne peuvent pas s'assurer parce que ça coûte cher et qui donc prennent le risque de pas vu pas pris.
Un sur deux, c'est parce que c'est trop cher.
Et qui mettent en péril la personne dans laquelle ils vont rentrer parce qu'ils sont pas solvables et qu'il y a pas d'assurance, etc., etc. Mais on sait que cette problématique cesse de monter depuis des années.
C'est la raison pour laquelle souvent les parents mettent la voiture à leur nom et leur enfant en second conducteur, parce que sinon ils se font exploser en tarif d'assurance.
Voilà, mais il y a aussi tous ces gens qui se font radier pour des petits sinistres.
Oui.
Et du coup, pendant des mois, tu peux plus te réassurer et tu sais quoi,
mon assurance habitation que j'ai depuis 30 ans, qui leur a coûté zéro, et cette année j'ai eu des dégâts liés à la météo, et ils m'ont radié. En fait, ils pensaient que c'était un placement en assurance, que c'était un don annuel. Et quand ils se sont rendus compte que c'était pas un don, qu'il pouvait y avoir un retour, qu'il pouvait éventuellement
avoir un sursis. Voilà. C'est
dingue, c'est ça.
Ouais, j'étais radié. J'ai reçu un courrier en me disant, pour la première fois où j'ai demandé à être indemnisé de dégâts, j'ai reçu un courrier, je dois l'avoir en copie, me disant, monsieur, jusqu'au 30 juin, vous êtes assuré si vous avez bien payé, ce qui est le cas. Et à partir du 1er juin, on vous demandera d'aller trouver une assurance ailleurs.
Il y a quand même
un scandale. Tu leur as coûté trop cher.
Il y a quand même un scandale.
C'est la première fois en 30 ans.
Il leur a coûté des sous. Mais il a raison aussi sur les voitures, hein, puisque moi, il y a longtemps, on avait été radié. On ne savait même pas, parce que dans la même année, on s'était fait emplafonner par derrière, là. Et on avait eu la roue arrachée par une voiture qui était passée dans notre rue. Donc on était fautif dans aucun des deux cas.
Exactement.
Mais comme ça avait eu lieu dans la même année, ça c'est trop pour l'année et on a appris comme ça un jour qu'on était radié.
Vous noterez que les assurances, les années de grandes catastrophes, nous font payer un malus parce qu'il y a des catastrophes.
Ouais.
Mais les années où il se passe rien et tout va bien, on n'a pas un bonus.
On n'a pas de bonus.
Non, jamais. Non mais là, juste une chose, ça nous rappelle combien la voiture est importante, en particulier pour les zones rurales et semi-rurales. Enlève l'assurance à quelqu'un qui ne peut se déplacer qu'en voiture parce qu'il bosse à 30 bornes de chez lui, il va enfreindre la loi.
Et vous savez qu'avec le réchauffement climatique, il va y avoir de plus en plus d'assurances qui vont sauter et il y a énormément de choses qui ne seront plus couvertes par les assurances. Donc on va aller vers des taux d'assurance qui vont être ingérables pour une grande partie de la classe moyenne.
Merci Anaïs Sainz.
Merci Anaïs.
Tout à l'heure à 11h20.
Retourne peindre.
Ça se passe chez vous. On vous emmène à l'orgue dans le Var.
Chez moi.
Pour sauver la tranquillité de son environnement, un maire a décidé de dire non à Lidl, non à Casino et non à McDo.
Bravo.
Il a raison. Bravo monsieur.
Non.
Voilà.
Bravo.
Pas de grandes enseignes.
En fait, il est contre tout le monde, quoi.
Il
n'y a pas d'emploi, il n'y a rien.
Non.
Tant qu'il dit pas non à Bruno, alors
la vie va bien. Barbara Lefebvre. Personne.
Même Jérôme, il a dit oui.
Chez moi,
je suis content.
Je ne veux garder, dit le maire de l'orgue, que du commerce de proximité.
Voilà.
Ça se passe chez
vous. La France.
Ça se passe à l'orgue dans le Var. Est-ce qu'il a raison, ce maire?
Avec des gens qui bossent jamais le week-end.
Tous avec le maire de l'orgue.
Avec un rôle de pilote tomate.
Et puisqu'on parle de grandes enseignes, dans un instant, on va aller du côté des Yvelines, au Mureau précisément, où Auchan ferme parce qu'il est victime de la concurrence du H-Market. H-Market, c'est une chaîne de magasins
qui vend du H et du Market.
Halal.
C'est ça.
Il n'y a pas d'alcool. Les caissières sont voilées. Alors, est-ce que...
Et c'est moins cher.
Est-ce que c'est la loi du marché? H-Market a trouvé son créneau et ses clients? Ou est-ce que c'est du repli communautaire? Vous venez en discuter au 32-16.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules.